18h sur France Culture, le journal vous est présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir, bonsoir à tous. En Syrie, le bilan toujours plus lourd à l'est de Damas. 500 civils tués en 7 jours. Les raids du régime se poursuivent. Nous entendrons le témoignage d'un reporter sur place dès le début de ce journal. Puis nous partirons en Italie, rassemblement antifasciste à Rome, meeting d'extrême droite à Milan. Olivier Tosseri nous aidera à y voir plus clair à une semaine des élections législatives. En France, salon de l'agriculture sous tension pour Emmanuel Macron, sifflé, accrochage, échange houleux. Macron et la ruralité, pour l'instant, c'est une histoire de désamour, nous dira Manuel Ruffez. Enfin, désamour aussi pour la profession d'agriculteur. Elle attire de moins en moins de jeunes. Décryptage d'un sociologue en fin de journal. Les chiffres sont effrayants. En 7 jours, les raids du régime syrien dans l'enclave de la Ghouta orientale ont tué 500 civils, dont 121 enfants. Des victimes supplémentaires encore aujourd'hui. Des corps aussi découverts sous les décombres, constate l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nous avons joint sur place le reporter Vassim Al-Khatib. Il se trouve à Harbin, dans la Ghouta orientale. Un raid vient de toucher son quartier.
Les gens vivent dans une peur constante, même la nuit, car il y a toujours 3 ou 4 bombardiers qui survolent simultanément la route. Ils font des rotations et ciblent sans répit les civils qui n'ont pas d'endroit sûr pour se protéger. Ils se réfugient dans des abris. Ils sont aujourd'hui entre 150 et 200 000 à s'y être cachés, de peur d'être bombardés. Mais le régime et les avions de chasse russes parviennent à les cibler avec leurs frappes, même dans les sous-sols. Voici un des raids aériens qui vient de cibler à l'instant la zone dans laquelle je me trouve. Les bombardements ne cessent jamais. Les civils ne peuvent même pas sortir de leurs abris, ne serait-ce que pour s'approvisionner en eau et en nourriture.
Témoignage recueilli depuis Beyrouth par Mélanie Houet. Dans le même temps, nous devrions connaître sous peu le résultat d'un vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Un vote qui doit décider ou non d'une trêve d'un mois pour permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée jusqu'à la Ghouta orientale. Plus de 20 personnes tuées aujourd'hui en Afghanistan. C'est le dernier bilan d'une série d'attentats ce samedi dans la nuit. Des talibans ont attaqué un poste de l'armée afghane, tuant 18 soldats. À Kaboul, la capitale, un kamikaze s'est fait exploser sur un marché. 3 morts. L'attentat a été revendiqué par l'Organisation de l'État islamique. Une actualité internationale décidément chargée. Ce soir, on apprend que 2 attentats suicides à la voiture piégée ont tué ou blessé aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes à Aden, dans le sud du Yémen. Les attentats visaient vraisemblablement un camp utilisé par des forces antiterroristes. Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions qui visent à isoler encore plus la Corée du Nord. Quelques heures après l'arrivée de sa fille Ivanka en Corée du Sud pour la fin des Jeux Olympiques, ces mesures visent plus de 50 sociétés de transport maritime et navires. Les explications de Frédéric Ojardias.
Les nouvelles mesures américaines visent 27 entreprises maritimes et 28 navires suspectés d'aider Pyongyang à échapper aux sanctions actuelles. Les entités mises sur liste noire sont basées en Corée du Nord, mais aussi en Chine ou à Singapour. L'objectif est d'empêcher les navires nord-coréens de contourner les sanctions en se livrant à des transferts illicites de charbon ou de pétrole en haute mer. Washington cherche ainsi à épuiser les réserves de devises de Pyongyang pour l'obliger à renoncer au nucléaire. Si ces nouvelles mesures punitives ne remplissent pas leur objectif, les États-Unis passeront à la deuxième étape qui pourrait être très rude et très fâcheuse pour tout le monde, à menacer Donald Trump. Sa fille, Ivanka, se trouve à Séoul pour la cérémonie de clôture des JO et beaucoup se demandent si des membres de sa délégation pourraient rencontrer en coulisses les émissaires nord-coréens attendus dimanche. Ces nouvelles sanctions pourraient donc être aussi un moyen pour Washington d'aborder un futur dialogue avec Pyongyang en position de force.
En Israël, dans les rues de Tel Aviv, des migrants africains manifestent en ce moment contre la nouvelle politique du gouvernement israélien. Une politique qui leur laisse 2 choix, quitter le pays ou aller en prison indéfiniment. J-7 avant les élections législatives en Italie. Les électeurs descendent dans la rue aujourd'hui, à Rome d'abord. Rassemblement antifasciste, à Milan ensuite. Un meeting de la Ligue de Matteo Salvini, formation d'extrême droite. Décryptage des forces en présence avec Olivier Tosseri.
Samedi, sous haute tension pour les forces de l'ordre déployées massivement dans plusieurs villes du pays. À Rome, où plus de 20 000 personnes participaient à un défilé contre le racisme et le fascisme. À Milan, où Matteo Salvini, leader de la Ligue, parti s'inspirant du Front National de Marine Le Pen, organise organisé une manifestation intitulée « Les Italiens d'abord ». Le ministre de l'Intérieur, suite au climat de violence, autant verbal que physique, qui caractérise cette fin de campagne électorale, a appelé les forces politiques à faire baisser la tension. Ce n'est pas le souhait de Matteo Salvini, alors que les derniers sondages donnent favorite la coalition de centre-droit dont il fait partie. Dans la foule, ses partisans arboraient drapeaux et t-shirts sur lesquels s'étalaient les slogans « Les Italiens d'abord », Salvini Premier ministre, maintenant ou jamais, référence à la victoire que la coalition de centre-droit s'en proche. Le parti de Matteo Salvini talonne celui de Silvio Berlusconi et cherche à prendre le dessus. La démonstration de force ce samedi dans les rues de Milan lui était avant tout destinée.
Précision d'Olivier Tosseri. Les autorités de la ville de Kinshasa ont interdit l'organisation de marches pacifiques, demain des marches laïques, contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Pour justifier l'interdiction, le gouverneur avance dans une lettre l'absence d'itinéraire qui ne pouvait pas, ce sont ses mots, garantir un encadrement efficient. Le quotidien indépendant Arbar Al-Yaoum, toujours dans le viseur du gouvernement marocain aujourd'hui. Deux salariés ont été convoqués par la police. Une journaliste du même groupe de presse a été interpellée. Hier, c'était le directeur du journal qui était arrêté. Le Maroc a adopté en 2016, on le rappelle, un nouveau code de la presse qui ne prévoit plus de peine de prison pour les journalistes. Mais ces derniers continuent d'être poursuivis. Selon le code pénal, le royaume figure à la 133e place sur 180 pays au classement mondial 2017 de la liberté de presse. C'est une terre pour le moins hostile que foule en ce moment Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Le président serre des mains un peu crispées depuis tôt ce matin et jusqu'à tard ce soir. Il resterait apparemment après la fermeture. Le mécontentement s'est fait ressentir dès l'arrivée du chef de l'État, Manuel Ruffez.
Dès son arrivée dans le hall 1, le comité d'accueil est là. Le président Emmanuel Macron ne pouvait pas rater cet éleveur, Loïc Kellec, et pour cause.
Je suis déguisé en vache avec la vache française. Il y avait effectivement un autre déguisement qui était un bœuf argentin. On voulait mettre un peu les deux en opposition.
Des cloches, quelques sifflets, ces éleveurs de viande bovine sont mécontents, notamment de cet accord commercial en cours de négociation entre l'Union européenne et de grands pays d'Amérique du Sud. Alors, pas question d'applaudir.
L'inquiétude de la profession est trop grande. On reconnaît le volontarisme du président et sa volonté réellement d'avancer dans le bon sens. Mais sur certains sujets, il y a encore trop d'inquiétudes pour qu'aujourd'hui on puisse l'applaudir à son entrée.
Il n'en veulent pas de cette viande, volaille, sucre qui ne répond pas, affirme-t-il, aux mêmes exigences que les productions en France.
Il n'y a pas les moyens de contrôle, c'est le pays exportateur qui contrôle les produits. On est quand même plus qu'en droit, nous producteurs, mais aussi consommateurs et citoyens français et européens, de se poser quand même de grosses questions sur la qualité sanitaire de ces aliments qui vont arriver sur le marché.
Loïc Kellec l'affirme, ce nouvel accord Mercosur pourrait déstabiliser les marchés européens déjà saturés.
Et ces réformes découragent notamment une catégorie de la population à se lancer dans la profession, les jeunes. Éric Birlouet est agronome et sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Il décrit un monde agricole délaissé par la nouvelle génération. Écoutez.
Les chiffres montrent qu'il n'y a pas de renouvellement suffisant, même si on a, comme on l'a dit, des jeunes qui viennent de l'extérieur de l'agriculture. Le problème, c'est que à l'intérieur du milieu agricole, beaucoup de jeunes, en partie parce qu'ils ont été découragés par leurs parents eux-mêmes, qui leur ont dit « c'est pas un métier d'avenir, il faut que tu cherches autre chose ». Donc le déclin continue. Pour être précis, il y avait en 1988 encore 1 million d'exploitations agricoles. Aujourd'hui, il y en a 400, 450 000. Probablement, il n'en restera plus que 350 000 d'ici une dizaine d'années. Ça va encore diminuer. De moins en moins d'agriculteurs, et les jeunes agriculteurs ne veulent plus avoir un métier isolé comme a pu l'être peut-être parfois celui de leurs parents. Aujourd'hui, l'agriculteur, il a besoin, peut-être plus par le passé, de relations sociales en dehors de l'agriculture. Ce qui est important, je crois, c'est de prendre en compte les attentes très fortes des agriculteurs et notamment des éleveurs en termes de mode de vie, de rythme de vie également. Ils ne veulent plus travailler du matin au soir et du soir au matin. Ils veulent, c'est tout à fait légitime, des week-ends, prendre des vacances. Et donc les nouveaux collectifs de travail où on est plus nombreux à travailler sur une même exploitation, qui sera sans doute plus grande que par le passé, c'est plusieurs familles qui vont vivre sur une grande exploitation et qui pourront justement permettre de libérer du temps pour des vacances, pour un week-end, etc. Parce qu'il y a cette revendication quand même très forte de vivre comme les autres, ce qui n'enlève rien évidemment à la passion qu'ils ont de leurs animaux, pardon, des éleveurs.
Et pour être complet sur ce dossier des agriculteurs, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs, a salué tout à l'heure une position très ferme d'Emmanuel Macron au sujet du budget des aides européennes. Un petit mot de météo avec demain un temps globalement calme, sec et bien ensoleillé. Quelques nuages en matinée tout de même dans le ciel du centre-est et des Alpes. Sortez les cache-nez car le vent soufflera fort jusqu'à 50 km/h sur la moitié nord, parfois 70 km/h près des côtes de la Manche et dans la vallée du Rhône. Le thermomètre pourra aller titiller les 12 degrés dans le sud-ouest et autour de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition qui, sachez-le, a été préparée par Bruno Gagnard-Fontanille.